ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101.4. L'émission que vous allez entendre est la retransmission en continu et en différé de l'émission du 21 mars sur le thème des tranquillisants. Pendant les émissions en direct, le mercredi soir, vous pouvez nous téléphoner au 20 01 93 023 depuis la Suisse. Cette retransmission repassera toute la journée du jeudi jusqu'à 5 heures, heure à laquelle reprennent les émissions régulières de Radio Zone. Ce soir, Radio Pleine Lune vous propose une émission tranquille, très tranquille, si tranquille, trop tranquille, tellement tranquille qu'on glisse dans un trou noir, tellement tranquille qu'on s'endort lourdement, qu'on en perd la mémoire. Ce soir, sur Radio Pleine Lune, on va vous parler des médicaments appelés tranquillisants. Médicaments tranquillisants, ces petites pilules, ces dragées en flacons d'Hoffmann-Laroche, Sibagaigi, Bayer et j'en passe, qui vous font pénétrer dans le monde des tranquillisants, des somnifères, des anxiolytiques, des agapactiques, des psychorégulateurs, des psychoharmonisateurs, des dépsychiatrisants, des eutoniques, des fonctions psychiques, des facilitateurs, des psychothérapies. Nous en passons et des meilleurs. C'est pas un petit sujet, surtout parce que ça remplit bien les poches de ces messieurs, de ces grandes boîtes pharmaceutiques. Je les répète, Hoffmann-Laroche, Sibagaigi, Bayer, pour ne parler que des plus belles. C'est donc un petit commerce, tout petit commerce, mais qui leur apporte beaucoup de sous. 71 millions de boîtes de tranquillisants vendues en France en 1982. 8% de la population en France consomme chaque jour des tranquillisants. Le bénéfice des grosses boîtes pharmaceutiques, il est passé en quelques années, en deux ans, de 334 millions à 661 millions de francs. La consommation est passée en 72, par exemple en France, de 15 milliards de francs à un chiffre d'affaires de 36 milliards de francs en 4 années. Quelques-uns de ces médicaments ont vu leur chiffre d'affaires passer de 1 milliard 200 000 à 6 milliards 600 000, toujours en 4 ans. Pour un autre, c'est passé de 735 millions à 44,6 milliards de francs. Bon, vieux franc, d'accord, la monnaie se dévalue, les bénéfices sont bouffés, mais quand même, ça fait pas mal de fric dans les poches de ces grosses multinationales du sommeil, de la tranquillité, de la blanche brouillard dans lequel on tombe quand on prend ces petits médicaments.
It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Les médicaments tranquillisants, donc tranquillisants ou somnifères, hypnotiques, qui vont vous calmer, vous rendre plus serein et qui finalement vont vous faire tomber dans quelque chose qui ressemble au sommeil. Bon, l'histoire des médicaments tranquillisants, l'histoire des somnifères, elle est ancienne. Ça fait quand même pas mal de temps que les gens essayent de se faire dormir. Avant, on utilisait l'opium, bien sûr. On se fumait une petite pipe, on avalait un petit sirop d'opium, une petite préparation à base d'opium qui vous faisait partir dans un monde de rêve. Le laudanum, liquide potion sirop à base d'opium, était bien connu. Et pour ma copine qui est derrière moi, Éponine Azelma, qui est une grande admiratrice de Colette, elle doit sûrement se rappeler que toutes les héroïnes de Colette, un jour ou l'autre, ont pris une overdose de laudanum, ont essayé de se suicider avec du laudanum. C'était donc un breuvage bien connu et bien utilisé pour faire dormir et pour faire dormir parfois un peu trop longtemps. Après, il y a eu d'autres médicaments, le chloral, le bromure, tout ça, c'était des préparations qui vous faisaient, qui vous maintenaient tranquille et qui vous faisaient dormir. Et puis, au début du siècle, les chimistes, alors eux, ils ont fait vraiment le gros coup. Ils ont trouvé une molécule qui était vraiment phénoménale. C'était l'acide barbiturique, à partir duquel ils ont créé une soixantaine de médicaments qui sont connus sous le nom justement de barbiturique et qui étaient utilisés pour faire dormir les gens qui souffraient d'insomnie ou pour les calmer quand ils étaient un peu agités. Alors le premier, il est aussi très connu, c'est le Véronal qui a été fabriqué au début du siècle. Son nom vient de la ville de Vérone où il a été fabriqué. Et il semble aussi que le nom des acides barbituriques vienne du fait qu'il a été découvert le jour de la fête de Sainte Barbara. Comme vous voyez, les fabricants des grosses boîtes pharmaceutiques ne manquent pas de poésie et adorent les femmes, c'est bien connu. Mais quand même, ces barbituriques, oui, c'était bien. Les gens adoraient ça. Alors, on l'utilisait beaucoup, beaucoup, à toutes les sauces. Je vous dis, quand on était un peu agité, un peu nerveux, on n'arrivait pas à dormir, alors on prenait son barbiturique. Malheureusement, ça avait quand même pas mal de petits effets secondaires pas très agréables. Parce que on dormait, d'accord, mais alors le lendemain, c'est pas pour dire, ça ressemblait plutôt à la gueule de bois qu'autre chose. Et puis, très vite, il y a eu des accidents involontaires et puis accidents volontaires, enfin, disons le mot, suicide, avec des barbituriques. Et les barbituriques sont devenus le premier moyen de se suicider dans presque tous les pays du monde, y compris la Suisse, bien sûr, qui depuis 30 ans utilise massivement les barbituriques pour se faire passer dans l'autre monde. On se souvient, pour toutes les cinéphiles, de la mort de Marilyn Monroe avec une overdose de barbiturique. Ce qui fait que, quand même, peu à peu, soit du côté des pharmaciens, soit du côté des médecins, soit même du côté des consommateurs, on a commencé à se méfier de ces barbituriques. Et puis, ça devenait très difficile de se les procurer en pharmacie. On devait avoir une ordonnance. Et puis, on a commencé à fabriquer des barbituriques avec des temps ce qu'on appelle des barbituriques à long terme, qui agissent très lentement, très doucement, mais sur plusieurs heures, ce qui fait que pendant 24 heures, on n'arrive pas à dormir, mais on est complètement dans les vapes, complètement dans un nuage. Alors, il y a eu une espèce de... je dirais pas désintérêt pour les barbituriques, mais les gens commençaient à s'en méfier. Et puis en plus, n'oublions pas, les barbituriques étaient fabriquées sous licence, et puis le droit d'auteur, en quelque sorte, des sociétés pharmaceutiques était venu à échéance, ça allait pouvoir être fabriqué moins cher. Alors bien sûr, les grosses boîtes pharmaceutiques se sont dit ça va pas, il faut qu'on trouve un autre produit. Alors ils ont cherché, et puis un peu par hasard en fait on a découvert un produit qui s'appelle, d'un nom très savant, de méthylpentinol carbanate. Et on l'a découvert totalement par hasard. En fait, c'était un dentiste qui a constaté qu'en donnant ce produit, il pouvait arracher toutes les dents à des gens complètement euphoriques. Aussi, on a utilisé ça dans les accouchements. Là aussi, les médecins voyaient que les femmes accouchaient en rigolant dans les pires douleurs. Alors, ils se sont dit, mais ce médicament, c'est génial. Et ils l'ont mis sur le marché comme un euphorisant. C'était donc un médicament qui avait une fonction un peu différente des barbituriques, puisqu'on essayait de calmer la personne sans la faire dormir, c'est-à-dire d'avoir une action sédative sans avoir une action hypnotique, c'est-à-dire se calmer sans s'endormir. Alors ce médicament a été tout de suite commercialisé avec un nom très caractéristique, puisqu'il s'appelait N-Oblivon. Alors le N-Oblivon a eu aussi une carrière fulgurante, il a été vendu par milliards dans tous les pays, et c'est un peu le début des tranquillisants. Mais la recherche continuait, et bientôt un autre médicament allait apparaître sur le marché. Mais un peu de musique, ça nous fera du bien.
Te souviens-tu du temps où je gobais des somnifères, où je parlais au vent, sorte de fil de fer? Te souviens-tu du temps où je voyais des pendus toujours couverts de sang au bout de mon avenue? Te souviens-tu du temps au bout de l'Italie où j'avais mal au dos et le reste en délire? Souviens-tu des soirs où l'on passait le temps à lire des histoires sous des porches béants? Te souviens-tu des jours où l'on parlait tout bas d'immensité d'amour à ne s'en remettre pas? Te souviens-tu de l'heure où sur la couverture, mais c'était en juillet, de cela je suis sûr, de cela je suis sûr, de cela je suis sûr.
Alors, on reprend notre fil de l'histoire de ces petites pilules rouges, roses, bleues dans toutes les formes de flacons que nous offrent nos grands ces gens tellement gentils que sont les grandes industries pharmaceutiques. Hoffmann La Roche, c'est ma préférée, Sibagagi, Bayer, etc. Donc, je vous disais qu'ils avaient envie de trouver un autre médicament. Et ils ont trouvé je vous dis le mot, les benzodiazépines. C'est un nom barbare, inconnu, vous n'avez rien compris. Benzodiazépines, qu'est-ce que ça veut dire? Jamais entendu parler de ça. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'autres noms. L'albégo, l'anxiolite, le démétrine, le dialag, l'ésucos, le rosan, le lexotanil, le librium, le nobrium, le seresta, le solatran, le stesolide, le temesta, le tranxilium, l'urbanil, le valium, le végézan, le dalmadorme, le dumolide, l'alcyon, l'oramète, mogadon, noctanide, planum, rohypnol, etc. Et oui, tout cela, ce sont des benzodiazépines, ce sont ces petits médicaments qui ont été mis sur le marché et qui font les fortunes de ces grosses boîtes comme Hoffmann-La Roche qui, par exemple, fabrique le Lexotanil, fabrique le Librium, fabrique le Nobrium, le Valium, le Mogadon, le Rohypnol. C'est pas mal, hein? Ça fait une dizaine de ces produits sur toute la gamme des benzodiazépines. Hoffmann-La Roche, d'ailleurs, est la boîte pharmaceutique qui a synthétisé ces benzodiazépines et qui a fabriqué une soixantaine de ces dérivés. Elle en a commercialisé une dizaine et elle a vendu les autres sous brevet à d'autres boîtes pharmaceutiques pour qu'ils soient commercialisés. Il y a donc une cinquantaine de ces produits qui sont qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ce sont toutes des benzodiazépines? Ça veut dire que la molécule chimique de base, c'est cela, donc une benzodiazépine. Je ne peux pas vous faire un dessin par la radio, mais ça ne fait rien. Vous pouvez imaginer cette structure moléculaire et que tous les produits ne sont que la même molécule, plus ou moins arrangée. Mais à la base, c'est exactement la même molécule, donc dans ces soixantaines de produits qu'on trouve dans le commerce. Alors ça fait pas mal, hein. Et comme je vous dis, comme je l'ai dit au début, c'est pas peu puisqu'il y a 71 millions de ces boîtes qui sont vendues chaque année dans un pays comme la France qui comprend 56 millions d'habitants, donc ça fait plus d'une boîte par habitant par année, et qu'en France, en tout cas 8% des gens en utilise quotidiennement. Et en Suisse, je crois que c'est un peu plus, ça tourne autour des 10%. Si on prend par exemple les gens qui travaillent, la population active, alors là, le taux est beaucoup plus haut puisqu'on arrive à 20% de la population qui utilise régulièrement ces petites pilules pour se calmer ou pour dormir. Alors, l'histoire des noms qu'on a donnés à ces médicaments est assez rigolote, sans parler même des noms commerciaux, parce qu'il ne faut pas rigoler quand un médicament s'appelle Urbanil, ou Tranxilium, ou Seresta, ou Anxiolite, ou Dalmadorme, ou Noctanide, Planum. Enfin, je veux dire, les noms sont assez indicatifs de qu'est-ce qu'on entend, quels devraient être les effets de ces médicaments. Vous prenez un Urbanil et puis après vous êtes très gentil, très doux, vous n'engueulez plus votre chef, ni vos voisins, ni votre concierge. Mais il y a aussi le nom de toute cette gamme de médicaments qui est assez rigolo de voir comment ils ont trouvé ces noms. Alors au début, donc, ça s'appelait des somnifères, mais comme je vous l'ai expliqué au début, le terme de somnifère, les gens commençaient à s'en méfier, parce que dire « oui, je prends des somnifères », c'était un peu, ça faisait tout de suite, ça évoquait les barbituriques, ça évoquait les possibilités de se suicider, ça évoquait le fait qu'on n'arrive pas à dormir, alors c'était un terme dont les gens se méfiaient et ils n'avaient pas envie d'un somnifère, justement parce qu'ils n'avaient pas envie de dormir. Alors, on a essayé de trouver un autre nom et puis on a trouvé ce nom tranquillisant. Tranquillisant, alors vous prenez, si vous dites je prends un tranquillisant, c'est moins, ça fait moins peur, je prends un tranquillisant, ça me laisse tranquille, ça me rend calme, je suis moins agitée. C'est un terme qui est passé, mais quand même un peu avec des réticences, parce que tranquillisant, quand même, c'est un nom un peu populiste. Hein. Faut pas, ça ne fait pas très sérieux, ça ne fait pas très médical, ça ne fait pas très scientifique de dire je prends des tranquillisants pour rester tranquille. Quand même, hein. Soyons un peu sérieux. Alors les médecins se sont dit, avec ce terme-là, tranquillisant, on n'arrivera pas à faire des bonnes ventes, il faut trouver un autre nom. Alors ils ont trouvé le mot agapactique. Ça, c'était un beau mot. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire agapactique? Eh bien, ça veut dire tranquillisant en grec. Mais agapactique, c'était trop compliqué. Même les médecins s'en rappelaient plus, parce que maintenant, le grec n'étant plus obligatoire dans toutes les facultés, ils savaient plus ce que c'était. Et au moment de prescrire, ça faisait très mauvais genre s'ils avaient oublié le nom de leur médicament. Mais, alors là, ce fut l'inspiration du siècle, ils ont trouvé le mot qui leur a fait tilt. Écoutez bien, anxiolytique. Anxiolytique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va dissoudre les angoisses. Alors ce terme, il était génial, parce que des angoisses, tout le monde en a. Vous avez peur de traverser l'autoroute, c'est normal. Vous avez peur de traverser la Servette à 6h du soir, c'est normal. Vous avez peur de monter en vélo, traverser en vélo le pont du Mont-Blanc, c'est normal. Vous avez peur d'aller au boulot, c'est normal. Vous avez peur de vos voisins, c'est normal. Vous avez peur du chien, etc., etc. Vous avez peur des peurs, tout le monde en a. Tout le monde a un petit peu sa dose d'angoisse, plus ou moins objective, plus ou moins subjective. Donc tout le monde peut être potentiellement des consommateurs et des consommatrices d'anxiolytiques. Et à partir de là, vraiment, ça a fait boum. Alors, ces benzodiazépines, ces tranquillisants, quels sont leurs effets? Alors, principalement, ils enlèvent les angoisses. Voilà. Ils enlèvent les angoisses, ils calment, ils mettent les gens dans un espèce de d'état un peu apathique, un peu assis, un peu très calme, oui. Très très calme, mais c'est pas une action euphorisante, c'est pas que ça enlève les angoisses en donnant en faisant planer un peu les gens dans des bonnes histoires, en les rendant un peu comme ça speedy, excités, euphoriques, envie de rigoler. Non, ça calme simplement en écrasant un peu les gens, en écrasant un peu leurs envies, leurs désirs. Ils sont un peu comme ça écrasés. Voilà, ça c'est l'effet principal. Et puis, si on augmente les doses, alors à ce moment-là, c'est un effet de ce qu'on appelle sédation. C'est-à-dire qu'on est presque endormi. Ce n'est pas vraiment l'endormissement, c'est disons la phase d'endormissement. Et puis, si on augmente encore les doses, alors on arrive à un effet qui peut être même excitant. À ce moment-là, la personne est excitée, mais agitée. Presque, elle peut être même agressive. Et puis, toujours en augmentant les doses, à ce moment-là, on arrive à... les gens s'endorment. D'ailleurs, quand je vous ai donné la liste, là, peut-être que si vous êtes des consommatrices et des habituées des benzodiazépines, vous avez peut-être reconnu que certains sont des anxiolytiques, sont vendus comme anxiolytiques, comme le Valium, le Nobrium, le Librium, le Lexotanil, pour ne parler que ceux de ma favorite Hoffmann-Laroche, et d'autres sont vendus comme des somnifères, donc pour faire dormir, comme le Mogadon, le Rohypnol. D'autres même sont vendus comme des neuroleptiques, comme le Leponex. Alors ce sont ce qu'on appelle les tranquillisants majeurs qu'on utilise surtout en psychiatrie. Donc ils sont commercialisés soit comme anxiolytiques, soit comme somnifères. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent entre les anxiolytiques et les somnifères? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Valium et le Rohypnol? Pourquoi l'un est utilisé pour calmer nos soi-disant angoisses et pourquoi l'autre est utilisé pour dormir? Alors, qu'est-ce qui différencie ces benzodiazépines qui sont vendues donc soit comme tranquillisants, soit comme somnifères? C'est uniquement les doses. C'est-à-dire que certains sont sous-dosés. Alors, vont calmer. Alors, selon qu'ils soient plus ou moins sous-dosés, ils vont calmer plus ou moins. Et certains seront surdosés et à ce moment-là, plongeront les gens dans ce qu'on peut appeler du sommeil. Mais en fait, c'est exactement le même produit. Vous prenez du Valium, vous prenez du Rohypnol, vous avez de chaque fois des benzodiazépines. C'est exactement le même produit. Simplement, ce qui va changer, c'est le dosage. D'un côté, vous aurez des somnifères qui seront sous-dosés et de l'autre côté, vous aurez des tranquillisants sous-dosés et de l'autre côté, des somnifères surdosés. Donc, c'est exactement la même chose. Le Valium, c'est la même chose que le Mogadon. Le Librium, c'est la même chose que le Rohypnol. L'anxiolyte, c'est la même chose que le Alcyon, etc. Toutes ces benzodiazépines sont exactement la même, c'est plus ou moins le même produit chimique et ça exactement les mêmes effets. Donc la seule chose qui change, c'est la différence de dosage, rien d'autre. Et on vous vend une soixantaine de produits soi-disant différents avec contenant exactement le même produit qui va avoir le même effet. Alors vous avez, vous pensez que vous prenez autre chose, vous prenez du Lexotanil, vous prenez du Valium, vous prenez du Seresta, vous êtes en train de prendre exactement la même chose. Vous prenez du Noctamide, du Planum, du Loramet, vous prenez exactement la même chose. Ce sont toujours des benzodiazépines. Alors, pourquoi elle me souffle derrière? Pourquoi il y en a tellement, c'est ça? Pourquoi il y en a tellement? Parce que les pharmacies, bien sûr, se font du fric, quoi. Elles vont essayer de vendre plusieurs produits, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres médicaments où il y a le même produit. Si vous prenez l'aspirine, par exemple, le principe actif, c'est l'acide salicylique. Ben, on n'en trouve pas que dans l'aspirine. On en trouve aussi dans l'alcacil, dans l'aspro, dans je ne sais pas quoi. Il y a au moins 100 médicaments qui sont en fait des médicaments pour le maux de tête avec de l'acide salicylique. Alors, vous me direz, pourquoi je me fâche avec cette histoire de benzodiazépine? Pourquoi je fais un tel foin? Où est la différence avec l'aspirine? Haha, vous voulez le savoir? Eh bien, suspense, suspense, un peu de musique et après je vous donnerai la réponse. Alors, je vous avais promis quelque chose. Pourquoi donc est-ce que je m'excite tellement sur le fait qu'on vende tellement de ces médicaments qui sont en fait les mêmes choses, les benzodiazépines? Pourquoi on en vend qui s'appellent des tranquillisants? Pourquoi on en vend qui s'appellent des somnifères? Pourquoi je trouve ça tellement dégueulasse? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est parce que nombreuses personnes et nombreux médecins voient venir... prenons un médecin. Il voit venir une personne qui vient, qui dit « Docteur, j'ai des petits problèmes, ça va pas, je suis agitée, je suis anxieuse, je suis déprimée, j'ai peur de tout, puis le soir, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Alors le médecin va commencer à prescrire des médicaments. Alors il va lui dire « Eh bien, Monsieur, madame, mademoiselle, vous allez commencer par prendre un petit Seresta, peut-être à midi. Et puis le soir, eh bien, vous prendrez un petit Rohypnol pour dormir. » Alors la personne va commencer à prendre un Seresta le matin et un Rohypnol le soir, en pensant qu'elle prend un médicament pour la calmer, pour la tranquilliser, pour lui enlever ses angoisses, et puis un médicament, un autre, pour dormir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est en fait le même médicament. Quand vous avez mal à la tête, si vous prenez une aspirine et après un Aspro, puis après un Alcacil, vous savez parfaitement que vous avez pris trois fois une dose d'acide salicylique ou d'un médicament pour le mal de tête. Vous savez que c'est la même chose. Donc vous savez un peu
qu'il ne faut, qu'il faut pas surdoser, on sait qu'il ne faut pas en prendre trop. Tandis que si vous pensez que vous avez pris un médicament anxiolytique et un autre somnifère le soir, que vous ne savez pas que c'est exactement le même, eh bien, vous allez entrer dans un processus où vous finirez par prendre 2-3 benzodiazépines par jour et donc arriver à une situation proche des doses où ça commence à devenir un petit peu dangereux.
Faire une petite intervention, te dire que j'ai entendu quand même que les benzodiazépines n'étaient pas toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un noyau central qui est le même, mais que les embranchements sont différents, et ce qui donne une certaine spécificité à chaque benzodiazépine. Donc c'est pas dépendant du dosage, mais plutôt de la molécule quand même. Par exemple, dans les sevrages alcooliques, on utilise le Librium et pas une autre benzodiazépine. Ça marcherait moins bien.
Oui, il y a effectivement 3 noyaux, le diazépam, l'oxazépam et le troisième, je ne me souviens plus. Mais de fait, comme on ne sait pas encore très bien comment marche au niveau de notre cerveau les benzodiazépines, de fait, on pense qu'elles fonctionnent, qu'elles mettent en jeu, elles vont toutes intervenir au même niveau et que donc, au niveau physiologique, l'action est la même.
Ah oui, tout à fait. Mais je crois qu'on n'explique pas encore la spécificité de certaines benzodiazépines, par exemple, justement, comme le Librium, pour pratiquement tous les sevrages, pas seulement alcooliques, mais aussi toutes sortes d'autres drogues.
Oui, bon, il y a bien sûr certains médicaments qui vont mieux aller pour certaines situations, ou même certaines gens. Bon, moi, par exemple, je suis spécialiste du mal de tête. C'est vrai que j'aime mieux, à certains moments, l'aspirine aura plus d'effet que l'alcacil, par exemple, même si de fait, c'est la même molécule. Donc, il y a un rapport différencié des gens aux médicaments qui peut expliquer, bien sûr, le fait qu'on en vende plusieurs. Ce qui, à mon avis, est une source d'erreur et de danger, c'est que le fait que les gens ne savent absolument pas qu'ils prennent quelque chose qui est le même et qui va induire, par exemple, des phénomènes de tolérance.
Et de dépendance.
Parce que, on entre dans le chapitre, dans le centre du sujet, c'est que ces molécules, elles ne sont pas du tout anodines, ces médicaments ne sont pas anodines et vont quand même mettre les gens dans des situations qui rapprochent beaucoup, qui sont très proches de situations de toxicomanie, c'est-à-dire des gens qui deviennent dépendants de leurs produits et qui ne peuvent plus s'en passer. Alors bien sûr, quand on parle de toxicomanie, on pense toujours à l'héros, mais en fait, il y a une toxicomanie de type acceptable, qui est une autre de type dépravé, puis celle de type acceptable, c'est celle qui passe justement par les prescriptions des médecins, par la visite au pharmacien et par la cotisation aux caisses maladies et le remboursement des caisses maladies. Mais après, la situation va être assez similaire. Et le fait qu'on ne sait pas que parfois on prend qu'en prenant parfois des anxiolytiques, parfois des tranquillisants, parfois des somnifères, on prend en fait le même produit de base, on ne sait pas que l'un va avoir des répercussions sur l'autre. Par exemple, si vous prenez à midi du Seresta et le soir du Rohypnol, pour revenir à mon exemple, peu à peu, vous allez être induit dans une situation de tolérance, c'est-à-dire qu'il faudra augmenter les doses pour avoir un peu le même effet. Pourquoi ? Parce que, comme pour l'héroïne, pour les gens qui connaissent mieux ce tranquillisant-là, on va devoir augmenter les doses. On arrive, la dose n'a plus le même effet, on a tendance à augmenter les doses parce que l'effet disparaît. Alors, dans le cas des benzodiazépines, il y a une tolérance croisée entre toutes les benzodiazépines. Ce qui fait que, si je reprends la situation de ma personne là, qui prend ces deux médicaments pour commencer, à partir d'un certain moment, le soir, son Rohypnol n'aura plus tellement d'effet parce qu'elle sera devenue tolérante aussi à cause du Seresta ou du Librium qu'elle aura pris le jour. Alors, elle aura tendance à prendre 2 Rohypnol. Et puis le matin, son Seresta n'aura plus tellement d'effet, alors elle aura tendance à augmenter les doses. Et on arrive à des situations où les gens augmentent pas mal les doses et finissent par être quand même dépendants de leurs produits.
Mmh. époux du roi. Personne n'est ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles, de rigole en rigole. Demande-toi ce que tu vois. Personne ne vient d'où tu viens. Personne ne sait rien de rien. Rien, rien n'est ni blanc ni noir. Qui ne veut pas se voir heureux, heureux et sans mémoire. Personne n'est un rôle de gare. Personne marche vers nulle part. Rien n'est vraiment le hasard. Que veut dire bizarre? Barrière à qui voudrait l'espoir. Personne n'est le fou du roi. Personne n'est ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles.
Alors pour revenir à notre à nos benzodiazépines et à ses effets secondaires. Comme je vous ai dit avant, il y a cet effet de tolérance, c'est-à-dire que si on en prend pendant un temps assez long, on arrive à devoir, on doit augmenter les doses parce que sinon ça ne fait plus d'effet. Et puis il y a aussi un risque, bon disons le mot, quoi, un risque de toxicomanie. Alors ça c'est très drôle, quand vous regardez les petits papiers là, qu'il y a dans les boîtes des médicaments, ou si vous allez lire le Vidal, qui est la bible des médecins ou des pharmaciens sur les médicaments, ou d'autres bibles de ce genre, vous regardez les benzodiazépines, vous regardez le Valium, ou vous regardez Rohypnol, et il y a marqué dessus risque de toxicomanie, ou risque de sevrage. Ou danger de sevrage, risque de dépendance. Alors c'est vraiment drôle, hein. Qu'est-ce que ça veut dire risque de dépendance? Comme si, quand vous parlez d'héroïne, on disait « faites attention, il y a des risques de toxicomanie, alors soyez prudent ». Alors vraiment, risque de toxicomanie. Ça voudrait dire peut-être que si vous prenez exactement la dose prescrite par le médecin, ou la dose qui est écrite sur la petite boîte, vous arriveriez jamais à situation de toxicomanie ou de dépendance. Vous auriez jamais ce qu'ils appellent de cette façon très allusive et très polie, syndrome de sevrage. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs ces syndromes de sevrage? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, la personne ne peut plus se passer de son médicament, sinon elle va être assez malade, elle va avoir des diarrhées, elle va être très irritable, elle va avoir des insomnies avec des cauchemars très très forts, des crampes musculaires et parfois tomber dans des états de dépression assez graves. Et cet état va durer assez longtemps, beaucoup plus longtemps, il faut le dire, qu'un sevrage à l'héroïne, qui est aussi assez douloureux, mais qui dure quelques jours. Le sevrage aux benzodiazépines, lui, va durer beaucoup plus longtemps et peut même être dangereux pour la vie de la personne et devrait être suivi médicalement. Alors quand même, ces symptômes de sevrage ne sont pas anodins et ça ne doit pas être rigolo de les ressentir après avoir pris, selon la prescription du médecin, son somnifère parce qu'on n'arrivait pas à s'endormir. Alors d'après les médecins, c'est pas souvent qu'on arrive à ces symptômes de sevrage. Ce n'est pas un danger de toxicomanie, c'est un risque de toxicomanie et que si vous continuez à prendre exactement ce que vous a prescrit le médecin, ça vous n'arrivera jamais. Et que ça n'arriverait seulement que si vous avez pris des doses vraiment très fortes pendant plus d'une année ou si vous associez ça avec de l'alcool ou par exemple avec des barbituriques. Mais c'est pas si simple, hein. Il y a eu une étude aux États-Unis sur 180 sujets qui a montré que des patients qui n'avaient jamais utilisé dans le passé des tranquillisants ressentaient des symptômes de sevrage en cas d'arrêt dès le quatrième mois de prise de tranquillisants. Et c'est pas du tout long, hein. Là, 4 mois, c'est une situation assez commune. Mais pas d'affolement, disent les fabricants, les prescripteurs et les vendeurs. Et je cite, « Ces symptômes sont minimes et rarissimes. Et n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous arrêter, ce n'est pas parce que vous êtes intoxiqué, diantre non, vous manquez tout simplement de volonté. » Mais, comme je vous dis, c'est pas si clair. Et il y a quand même, par exemple aux États-Unis, 8 millions d'Américains qui prennent, par exemple, du Valium. Et qui en ont consommé en une année 1,8 milliard petits cachets de Valium. Pas mal. Alors, il y a eu toujours une enquête aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ils adorent les enquêtes. Et a montré que 82% des personnes qui avaient été interrogées et qui respectaient les doses prescrites par le médecin avait quand même ressenti quelques phénomènes de sevrage. Et